quelques mots de démarrage, non pas pour présenter Geneviève Giacchino, que tout le monde connaît et qui dira elle-même quelques petites choses sur elle si elle a envie de le dire, mais pour rappeler que la précédente séance sur l'histoire de la formation des adultes à distance, nous avons évoqué l'histoire des technologies mises en œuvre dans la formation à distance, avec une présentation de Jacques Ouellet, qui nous a rappelé toutes les technologies, ayant vécu ou n'ayant pas vécu, envisagées ou effectivement utilisées pour former les gens à distance. Ceci dit, on avait trouvé que la présentation de Jacques, si elle était tout à fait intéressante au plan des technologies, était peut-être un petit peu décalée par rapport à nos préoccupations, dans la mesure où il nous a beaucoup parlé des technologies dans l'établissement scolaire, utilisées par les enseignants. Mais on est arrivé à la conclusion que, bien évidemment, c'était la pédagogie qui allait faire la différence par rapport aux adultes et la situation de formation et d'apprentissage qui n'est pas la même quand on est adulte ou quand on est élève. Donc, finalement, ça va être le rôle de Geneviève de mettre en place ce rapport, cette relation entre les technologies et les pédagogies. Et bon, comme elle est, vous le savez tous, spécialiste de la chose, je pense que ça ne posera pas de problème. Voilà, je n'en dis pas plus.
Merci Viviane. Écoutez, moi je suis très contente effectivement de me retrouver là et d'avoir répondu à la demande de Viviane. J'ai déjà croisé un certain nombre de personnes quand on était dans la salle d'attente de la 31, qui me prouve qu'il y a des personnes ici qui sont aussi compétentes et expertes que moi, si ce n'est plus. Donc c'est formidable, parce que comme on aura une séance d'échange, chacun pourra poser la question sur la distance qu'il n'avait jamais osé poser, et il y aura toujours quelqu'un pour y répondre. Alors je veux faire une remarque d'abord justement sur cette fameuse pédagogie des adultes, et je vais commencer par une anecdote. Il se trouve qu'il a fallu que j'attende d'être invité à la faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal au début des années 80 pour apprendre que lorsque je faisais de la formation continue à l'Université de Paris 8, je n'intervenais pas dans le champ de la pédagogie, mais j'intervenais dans le champ de l'andragogie. C'était un néologisme. Pardon ? Exact. Andragogie, c'est un néologisme qui n'était absolument inconnu à l'époque, mais qui était très utilisé au Québec, et dont je vous rappelle ici la construction par rapport à pédagogie, bien sûr, c'est formé exactement sur les mêmes bases, sauf que le pédagogue n'était pas l'esclave, c'était le sens originel, comme vous le savez, qui conduisait l'élève au maître, mais l'homme qui conduisait, qui allait se former. Et homme, au sens andros, au sens d'homme, par opposition à femme, comme je vous l'ai marqué ici, ce qui, paraît-il, expliquerait la non-utilisation de ce terme, et moi j'ai eu l'occasion de commenter en disant, j'avoue que ce n'est pas là que je mets ma revendication féministe, mais enfin, il semblerait que le mot d'andragogie, qui avait l'intérêt justement de distinguer une pédagogie des adultes et une pédagogie des enfants, car il y a bien une différence, et l'expression pédagogie des adultes, on est obligé de préciser pédagogie des adultes. Voilà, ça c'est une petite anecdote, mais j'avoue que j'avais appris quelque chose en arrivant à cette faculté de sciences d'éducation, où il y avait d'ailleurs un département d'andragogie. Je pense que certains d'entre vous le savent. Alors une petite remarque aussi sur histoire, le thème que m'a proposé Viviane, histoire des formes pédagogiques mises en œuvre. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas vous faire une histoire. D'abord, je ne suis pas historienne. Deuxièmement, on en parlait tout à l'heure en attendant de se retrouver dans cette salle. Pour faire vraiment une histoire, il faut avoir accès à des archives. Et on n'a pas beaucoup d'archives dans ce domaine. J'en ai quelques-unes, étant donné mon grand âge. Je les ai déposés d'ailleurs à la MSH, à la Maison des sciences de l'homme Paris Nord, puisque la Maison des sciences de l'homme Paris Nord regroupe les centres de recherche de Paris 8 et de Paris 13. Comme j'ai fait ma carrière à Paris 8, c'était logique. Je me permets d'ailleurs de le signaler parce que ça peut vous servir, vous et surtout vos étudiants, dans la mesure où j'ai déposé pas mal de choses sur la formation à distance dans différents pays d'ailleurs, mais aussi sur tout ce qui concerne les technologies éducatives, parce que je pensais que c'était tout de même préférable que ça soit stocké. C'est en cours de numérisation, et donc je pense que ça peut être intéressant. Alors, rapidement, justement, pour cette histoire, je dirais, parce que ce sont des choses qui sont quand même connues, c'est certain qu'on manque d'informations sur les premiers cours par correspondance. Il y en a eu bien avant qu'il y ait des politiques éducatives défendant cette modalité de formation. Il y avait des cours privés, la plupart du temps, commercialisés, pour répondre à des besoins locaux. On cite toujours l'exemple du père de la scénographie, Isaac Whitman, qui a sorti le premier cours à distance, 1840, avec le timbre poste, etc. Il y a des exemples comme ça célèbres, plus le premier institut, je crois que c'était à Berlin, institutionnellement, de cours par correspondance en 1856, etc. Et puisqu'on est ici en France et qu'on connaît le CNED, on doit citer aussi ce qui a été l'ancêtre du CNED et donc l'ancêtre du CNEC, même du Centre National d'Enseignement par Correspondance, qui était justement cette proposition, ce dispositif, on ne le disait pas comme ça à l'époque, pour l'enseignement primaire et secondaire des enfants du nord et de l'est de la France qui étaient déplacés dans le sud de la France et pour lesquels il fallait tout de même assurer une scolarisation. Voilà. Il y a un certain nombre de choses connues dans ce domaine, mais là-dessus, par exemple, j'aurais été très curieuse, il y avait un cours aussi pour apprendre le piano, un cours par correspondance pour apprendre le piano. Il est évident qu'on aurait des archives pour savoir quelles étaient les formes pédagogiques utilisées, ça serait tout de même intéressant. Mais la troisième raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas faire une histoire des formes pédagogiques, parce qu'on ne peut pas la dissocier du reste. Les formes pédagogiques sont liées au contexte institutionnel, qui eux-mêmes sont liés aux politiques éducatives, qui eux-mêmes sont liés au contexte politique et social, etc. Donc, je pense qu'on aurait intérêt, et donc, il y a toujours de jeunes chercheurs, et ils trouveront des archives, ça doit exister, en tout cas, il faut que ça existe, il faut les trouver, mais je n'ai disposé personnellement de mes propres archives, d'une part, et d'autre part, bien évidemment, des lectures, des travaux, de chercheurs, dont plusieurs sont ici, bien sûr, à commencer par Vivian Wittmann, on le sait, et d'autres. J'éviterai d'ailleurs de citer X ou Y, parce que je risquerais de déplaire à celui que je n'aurais pas cité, mais chacun se retrouvera vraisemblablement dans mes références. Voilà pour la remarque de départ. Donc, je passe tout de suite à mon plan, très classique. Il m'a paru important tout de même de rappeler qu'il y a un certain nombre de déterminants des formes pédagogiques, qu'on soit en face à face d'ailleurs ou qu'on soit à distance. Alors je les rappellerai et ensuite je parlerai de la spécificité de la formation à distance. Je n'ai pas fait la distinction formation à distance, formation ouverte à distance parce que je pense qu'elle est connue. Je rappelle tout de même que ça correspond à une évolution, la formation ouverte à distance, comme son nom l'indique, à proposer des cursus qui était plus ouvert au sens, à différents sens d'ailleurs, notamment ouvert à des publics plus diversifiés, ouvert dans le sens où on pouvait les commencer à des moments différents de l'année et pas avec la centennale, année universitaire, etc. Et ouvert aussi au sens de prenant en compte ou tentant de prendre en compte les différences entre les publics. Je dirais globalement, formation à distance entre nous, faisant aussi abstraction des cours par correspondance, qui d'ailleurs peuvent toujours exister, ça on y reviendra, parce que l'écrit n'a pas disparu, bien qu'il y ait beaucoup de technologies. Alors je passerai assez vite sur ces deux premiers points, et j'insisterai beaucoup plus, c'est ça le cœur de mon intervention, sur le troisième, à savoir l'évolution des conceptions et des conceptualisations, ce qui me paraît important, et puis quelques perspectives d'avenir, et j'ai repris exprès, parce que c'est un syntagme qu'on reprend beaucoup à l'heure actuelle, vers un nouveau paradigme, un nouveau rapport au savoir, pour en dire quelques mots, parce que ce sont des belles phrases, mais il faut essayer d'y mettre un peu de chair derrière. Alors, les différents déterminants des pratiques, je vais aller quand même vite, parce que ce sont des choses assez connues, mais par exemple le public, je vais quand même insister dans la mesure où le public qui vous intéresse ici, c'est un public d'adultes. Et un public d'adultes, c'est différent d'un public d'élèves et d'un public d'étudiants. En tout cas, bon, les adultes ont plus d'expérience, généralement, à la fois personnelle et professionnelle. ils ont plus d'attentes, généralement, ce qui dans l'université, parce qu'on a aussi une université, ce qui est extrêmement intéressant d'ailleurs comme public par rapport aux jeunes étudiants, aux étudiants purs, comme on dit à Paris 8, parce qu'ils ont des attentes sur l'utilité de la formation qu'ils désirent suivre. Ils attendent un retour sur leur pratique beaucoup plus que les élèves ou les étudiants. Ils sont souvent aussi réticents au modèle scolaire traditionnel. Donc il y a plus souvent un rejet du modèle traditionnel. Il y a surtout, on le sait, des caractéristiques à la fois sociodémographiques et économiques qui les distinguent, je vais y revenir, des autres publics, dans la mesure où leur souci était à la fois de se former, de travailler en situation et de prendre du temps pour se former, compléter leur formation, changer de secteur professionnel, etc. Donc tout ça, ça fait des différences, mais j'ajouterai tout de suite que ces différences s'amenuisent énormément depuis un certain nombre d'années. D'une part, parce que parmi les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent, certains sont obligés, avec les fameux stages, qu'on rend obligatoires même dans l'enseignement secondaire maintenant, puis aussi des activités professionnelles parce qu'ils ont besoin d'argent et doivent payer leurs études. Ils ont aussi souvent, vous le savez sûrement encore plus que moi, qui n'ai plus pour l'instant de charge d'enseignement, un refus du modèle scolaire traditionnel. Ils se rapprochent d'une certaine façon. C'est une des choses que je voulais souligner. En plus, il y a toute la thématique de la formation tout au long de la vie, de la formation droit pour tous, etc. Donc je dirais, pour aller vite, que le public, la différence entre le public adulte et le public étudiant ou élève, étudiant surtout, s'amenuise. Le public s'élargit, c'est vrai au Québec, c'est vrai au Canada, c'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays. Il y a de plus en plus de gens qui suivent des modalités différentes de formation à distance, et c'est un public qui est, d'une façon générale, moins âgé qu'au début de la formation à distance, étant donné le public auquel cela était destiné. Le statut de l'institution et les enjeux de l'institution, bien sûr, on ne va pas pouvoir comparer, on ne peut pas comparer, c'est une des difficultés d'ailleurs dans notre domaine, on ne peut pas comparer la télé universitaire, la TELUC à Montréal, qui est un système pratiquement industrialisé de formation à distance. Ils ne font que ça, ils gèrent des grands groupes à distance, complètement, etc., etc., et tel cursus de licence ou de maîtrise, on en voit fleurir tous les jours d'ailleurs, de telle université qui bricole, j'ai envie de dire, même si le mot bricoler, grâce à Lévi-Strauss, on le sait, n'est plus négatif, mais qui mettent sur pied une formation à distance avec les moyens dont ils disposent, bon, c'est pas comparable. Et le bon exemple que j'aime prendre pour illustrer ceci, c'est l'exemple du tutorat. J'ai mis l'exemple du tutorat et de ce point de vue éclairant, quel rapport il peut y avoir entre celui qu'on appelle le tuteur orchestre, celui qui doit tout faire, le soutien matériel, psychologique, sociaux, affectifs, on va revenir à tout ça rapidement, et les tuteurs statutaires identifiés de la TELUC, où vous avez le tuteur programme, le tuteur administratif, le tuteur technique, le tuteur cours, le tuteur projet. J'ai mis, sans parler des tutorats entre pairs, des tutorats des pairs, PAIRS, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est de plus en plus à la mode, mais quelqu'un ici présent avait été un des premiers à travailler dans ce domaine en France, puisque ça venait du Québec, les Québécois dans ce domaine ont toujours été assez en avance. Donc voilà un exemple, il y en a mille autres, mais l'exemple, le tutorat, on ne peut pas parler de tutorat si on a en tête deux dispositifs aussi différents que la TELUC et nos dispositifs et nos formations. Je n'ai aucun mépris pour ce type de formation. Il y a aussi dans la salle des gens qui se démènent activement et avec beaucoup d'enthousiasme pour mettre sur pied dans des contextes de sciences de l'éducation, pour ne citer aucune discipline, des formations à distance où on dit comment la distance, le prof n'est pas là et alors il est payé quand même, ça veut dire quoi, j'ai connu ça, je pourrais attester de ce genre de choses. Venez donc voir, mais si il vient de temps en temps le prof, etc., etc. Voilà. À propos du tutorat des pairs, j'en profite pour signaler un livre qui me paraît très intéressant. J'ai eu la chance de le lire puisqu'on m'a demandé de faire une préface, qui s'appelle « Le tutorat des pairs », sous la responsabilité de Katia Papi, et dans lequel il y a des recherches extrêmement intéressantes sur cette modalité de tutorat, donc qui consiste à prendre un étudiant ou un formateur un peu plus avancé que les autres. Quelquefois d'ailleurs, il y a des situations où il n'est même pas plus avancé, c'est un élève ou un étudiant ou un formé de la même promotion, mais qui a une certaine avance, soit technologique, soit cognitive, soit dans un domaine disciplinaire, etc. Voilà. Donc, statut de l'institution, j'ai noté aussi statut de l'institution et ses enjeux, parce que c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être ce sur quoi, notamment avec les technologies, ce sur quoi on oublie d'insister, car toutes les institutions qu'elles l'explicitent ou qu'elles ne l'explicitent pas, ont des enjeux éducatifs, ont une conception de l'éducation, je dis bien implicite ou explicite, qui va être déterminante pour les formes pédagogiques. Très rapidement, bien sûr, puisque je dois faire relativement vite, je poserai, en reprenant les expressions de Paulo Freire, j'ai beaucoup travaillé dans le contexte latino-américain, très intéressant de ce point de vue-là, et donc d'où cette référence notamment, les institutions qui opposent la conception bancaire, vous savez, les aspects transmissifs et accumulatifs des connaissances, qu'on reproche aussi beaucoup à toute la tendance dite d'industrialisation de l'éducation, à une conception que j'appellerais émancipatrice, là aussi pour aller vite, où on met l'accent, justement, comme le nom l'indique, sur l'émancipation de la personne, sur la conscientisation, sur l'approche critique, sur la réflexivité par rapport au savoir qu'on lui apporte. Il y a là, évidemment, des différences fondamentales qui vont avoir un impact sur les formes pédagogiques. C'est vrai dans la formation présentielle, je dis bien, tout ce que je dis ici est vrai dans la formation face à face, comme dans la formation à distance, c'est simplement plus visible, toujours, dans la formation à distance, parce que c'est institué sous une forme plus rigide, si je puis dire. C'est mis en évidence. J'ai vécu l'exemple de la formation à distance dans un pays comme l'Amérique latine, où les collègues insistaient beaucoup sur l'importance de la démocratisation après les périodes politiques qu'ils avaient connues. Il est évident que quand on parle de démocratisation dans nos pays, et quand on parle de démocratisation en Amérique latine, on ne parle pas de la même chose, etc., etc. Donc je passe vite, non pas que ce ne soit pas important, mais parce que ce sont des choses, en tout état de cause, qui sont valables, encore une fois, face à face et à distance, mais qu'on a tendance un peu à oublier, me semble-t-il, quand on s'embarque avec enthousiasme sur les technologies qui suppriment la distance. Il y a maintenant, d'ailleurs, un discours maintenant important, qui s'accompagne de recherches aussi, sur ce qu'on appelle l'accompagnement, qui est une figure dominante du discours éducatif actuel, qui insiste sur le fait que la formation a pour but, grâce à l'accompagnement, d'aider la personne à construire. Qui construire un projet, qui construire sa personnalité, qui construire le tutorat, etc., etc. Donc, j'ai noté aussi que la mode est aussi un élément qui entre en jeu dans la mise en œuvre des formes pédagogiques. Très important, hein, on a tous connu, il y a eu les pédagogies par objectif, il y a eu le behaviorisme, il y a eu le conditionnement, il y a eu Piaget, il y a eu etc. Enfin, il y a des modes. Il y a maintenant, j'y reviendrai d'ailleurs, la mode de l'hybridité, sur laquelle j'aurai quelques petites choses à dire. Le coût, bien sûr, gros reproche qui est fait à l'heure actuelle au tutorat des pairs, en disant c'est tellement commode, on n'a plus besoin de payer, puisque ce sont les étudiants eux-mêmes ou les formés eux-mêmes qui aident leurs copains. Ah ben, merveilleux pour un pays, pour une institution, pour un ministère, etc. Bon, il ne faut jamais être dupe des dimensions économiques dans nos domaines, et notamment dans le domaine des technologies, où on sait bien qu'on est poussé à les utiliser. Jamais il faut être dupe, mais d'un autre côté, il ne faut pas, dès qu'on commence à proposer une modalité pédagogique qui a ses intérêts, et qui a des intérêts très spécifiques, en disant, bien sûr, c'est trop facile, ça permet de faire des économies. Ça permet peut-être de faire des économies, mais ça permet peut-être autre chose, et nous, c'est ça qui nous intéressera. J'en termine, puisque, bien évidemment, les différents déterminants des formes pédagogiques, je le disais, sont toutes celles que j'ai évoquées. La principale, quand on aborde la formation à distance, c'est évidemment la distance, que j'ai appelée dans un... Alors, je vais vous donner chemin faisant des références. Je abrégé, bien sûr, mais ça va chaque fois vous renvoyer sur des choses connues, parce que je pense que, je dis toujours, on va vous les donner après, et je pense que c'était important de les donner, et je les ai mis généralement d'une autre couleur. J'ai même changé ce matin la couleur, ça a eu du vert, et je me suis dit, le vert, c'est pas terrible, donc je me suis dit, ça va, c'est visible. Voilà. Donc, la distance que j'ai appelée dans un article qui a donné d'ailleurs le nom du numéro de la revue Distance et Savoir, donc vous avez la référence ici, la distance comme principe de provocation. Il y a tout de même une chose qui fait d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui sur ce thème, que la formation à distance évolue comme elle évolue, parce que il y a eu, depuis longtemps, et dans des contextes extrêmement différents, avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de liberté, avec plus ou moins d'autonomie, des personnes, des groupes, des institutions, qui ont provoqué l'institution présentielle existante. Provoqué souvent, pas volontairement d'ailleurs, puisqu'au départ, la formation à distance, comme chacun sait, elle repose sur une obligation, sur un besoin de joindre des gens qui ne peuvent pas être ensemble, mais elle a, à tous les niveaux, entraîné des mises en cause, des modifications, une réflexion, dont la principale, qu'on souligne toujours, qui est le transfert de la focalisation de l'enseignant sur l'étudiant, sur l'apprenant, ce qui est relatif mais tout de même vrai. Donc j'ai décliné dans cet article un certain nombre de ce type de provocation, et c'est pas exhaustif, mais en même temps j'ai ajouté aussi et d'innovation sous certaines conditions, parce qu'il ne suffit pas de provoquer un système qui existe depuis longtemps et qui résiste, rien ne résiste mieux que les modèles pédagogiques. Tout le monde le sait, Michel Tardy a écrit ça en 1966 à propos de l'introduction du cinéma à l'école, et ça reste toujours vrai. Donc même si on pousse des coups sur ces modèles, ce modèle du présentiel, à supposer qu'on puisse en faire un modèle unique, toujours le même problème, ce sont ces provocations successives qui ont permis, quelquefois et sous certaines conditions, de débranler ce sur quoi on se reposait, je dirais de cette façon. Alors je rappelle, la distance et les formes pédagogiques, ce sont des choses quand même bien connues, donc vous voyez, ce qui explique que la distance justement entraîne des modifications et entraîne des perturbations, et bien voilà, dissociation dans l'espace et le temps, c'est important, les enseignants et les étudiants ne sont pas ensemble, les étudiants ne sont pas ensemble non plus, etc., etc. Dispersion et désynchronisation des activités, on apprend à des moments différents, dans des lieux différents, et avec des activités qui peuvent être différentes, ce n'est pas toujours le cas. Donc, les provocations aux trois niveaux, je l'ai dit, de l'institution, des communautés et des individus eux-mêmes, et des conséquences de cette dispersion et de cette désynchronisation, j'ai rappelé, je vais revenir là-dessus bien sûr, après dans les évolutions, les supports, ce qu'on a appelé selon les lieux, les supports de substitution, auxquels on est obligé d'avoir recours à partir du moment où celui qui parle et ceux qui écoutent, comme ici, comme aujourd'hui, ne sont plus ensemble. Il faut bien avoir recours à quelque chose, d'où, depuis le départ, l'imprimerie, l'écrit, l'imprimerie et tout ce qui va s'en suivre, qui joue, et ça c'est ça qui me paraît important, à deux niveaux, au niveau de la médiatisation des contenus, de savoir ce qu'on appelle quelquefois l'ingénierie des contenus, et au niveau de l'accompagnement, tout ce qu'on met sous la rubrique, les aides de toute nature à apporter à l'apprenant.
C'est quoi le passage de la conséquence au niveau des communautés des individus?
Ah oui, c'est une très bonne question. J'ai hésité d'ailleurs à le mettre parce que je me suis dit c'est lourd. J'utilisais ça très souvent avec les étudiants. Le grand E c'est l'enseignant et le petit E c'est l'étudiant.
D'accord.
Bon là je me suis dit là il faudrait changer. Non, je n'ai pas fait. Je me dis qu'avec vous, je peux me permettre. Oui, c'est ça. C'est les provocations, elles touchent aussi bien les enseignants en tant que communauté que la communauté des étudiants, mais aussi les individus. Merci, Viviane, de ta remarque. Voilà. Donc, et pour continuer, on connaît ma position, et c'est celle que je vais développer dans la troisième partie. Voilà, je ne peux pas le dire mieux que ce que j'ai écrit ici. C'est évident qu'on ne peut pas se passer des technologies et des médiations et des supports et tout ce que vous voulez, depuis l'imprimerie jusqu'au... J'ai mis des points de suspension après 2.0 parce qu'il y aura autre chose bientôt. Hein. Voilà, 3 et 4, quand je ne serai plus là, mais vous serez encore là. Donc l'influence des technologies n'est pas déterminante, est déterminante, mais n'est pas déterministe. C'est ça, s'il fallait retenir une chose, qu'il faut retenir, et on le verra, vous l'avez vu les uns les autres dans vos expériences, on le verra aussi dans ce que je voudrais vous dire. Peut-être une chose moins souvent soulignée, mais qui me paraît très importante. Cette distance, elle nécessite le recours à des technologies, mais elle déplace aussi la problématique pédagogique classique de l'activité relationnelle. l'activité pédagogique classique, depuis même les origines, hein, depuis Socrate, on pourrait dire, c'est vraiment le lien entre ce lien presque direct, l'infusion entre celui qui sait et celui qui est censé apprendre, et la distance, déjà en tant que telle, elle fait, elle déplace cette forme pédagogique de façon différente, elle va trouver des substituts, il n'empêche qu'il y a un déplacement vers l'effort individuel d'apprentissage, et je me suis demandé souvent, intervenant, je vous l'ai dit, dans des pays étrangers, où j'ai beaucoup appris, si c'était un modèle très culturel ou un modèle universel. Je crois que vous avez dans une prochaine session dans votre groupe une réflexion sur les pays, la formation des adultes dans les pays dans les contextes de décolonisation, j'ai vu ça et j'ai pensé à ça notamment, je me suis personnellement souvent posé la question, mais on le sait, il y a des traditions culturelles où l'apprentissage se fonde sur la répétition de choses écrites ou la répétition de choses orales. Et ce déplacement qu'introduit la distance vers, qu'on le veuille ou non, avec mille technologies ou peu de technologies, vers l'effort individuel d'apprentissage. Et je ne suis pas sûr, je me suis même à peu près sûr, après expérience, que ce modèle est tout de même assez culturel et ne peut pas se transférer sans adaptation dans n'importe quel contexte culturel. Ça, c'était ma position, mais je crois qu'elle est connue.
Est-ce que vous pouvez préciser la déterminante, mais pas déterministe?
Oui, déterminant, ça veut dire que ça a un effet. Si je veux parler à des gens, si je veux transmettre, oui, vous êtes gêné par le soleil, je ne sais pas si on peut s'appeler, c'est pas grave. Si j'utilise une technologie pour transmettre un contenu, que ce soit un livre, je peux prendre l'exemple d'un livre, c'est important, c'est déterminant dans la mesure où c'est différent de ma prestation orale. Je vous confie le livre et vous lisez le livre. C'est déterminant. Ça introduit, ça présuppose que vous savez lire, ça présuppose que vous achetez le livre, ça présuppose, etc., etc. C'est donc déterminant. Mais ce n'est pas déterministe au sens fort du terme. Déterministe, ça veut dire que, automatiquement, ça entraîne une conséquence. Or, toute l'histoire des technologies dans l'éducation, qu'elles soient présentielles d'ailleurs ou à distance, ont toujours montré qu'avec n'importe quoi et n'importe quelle technologie, si vraiment vous y tenez, j'allais dire, vous pouvez maintenir la forme la plus classique et magistrale de la formation ou la forme la plus groupale. J'ai été jeune professeur dans les années 65 au CES audiovisuel de Marly-le-Roi, ce qui me fait me crisper quand j'entends dire c'est formidable maintenant le travail de groupe, etc. Parce qu'en 65, on mettait les élèves en petits groupes dans la classe, on regardait tous ensemble une émission de télévision, puis après on travaillait à partir de ce qu'on avait vu en groupe, bien sûr. Et on avait des réseaux sociaux, c'est évident, il y avait déjà quelques technologies, mais enfin, je pense là-dessus. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez, avec les mêmes technologies, continuer un modèle, illustrer un modèle pédagogique ou illustrer un autre. C'est en ça que ce n'est pas déterministe. Mais c'est tout de même déterminant, au sens positif du terme, c'est-à-dire que c'est tout de même vrai, c'est mieux d'avoir maintenant les technologies que nous avons que d'être limité au livre, qui était la technologie, ou à l'écrit, qui était la technologie que nous avions. Est-ce que c'est clair? Bon, mais n'hésitez pas, effectivement, parce que ce sont des... Alors, quelques mots, oui, sur la distance, les distances, là aussi, je vous renvoie quand même. Quand j'ai mis mon nom, généralement, je l'ai mis en abrégé quand même. Je vous renvoie à un article de la Revue française de pédagogie qui a été repris très, très, très souvent, qui date de 80... En fait, c'était une intervention que j'avais faite à Montréal en 93, rappelant, ça a été réutilisé assez souvent, ce qui prouve qu'on oublie quelquefois quand on travaille sur la formation à distance, que beaucoup de choses que l'on remarque sont valables pour la formation présentielle, avec la différence que c'est rendu plus visible, plus criant, d'une certaine façon, avec la distance. Alors, distance spatiale, temporelle, oui, bien sûr, la formation à distance, par définition, hein, ça implique une distance spatiale et temporelle, puisqu'on ne travaille pas tous ensemble, on n'est pas dans le même lieu, on ne travaille pas tous ensemble, pas en même temps, et pas sur les mêmes choses obligatoirement. D'où le recours classique au regroupement, soit en présentiel, soit maintenant en classe virtuelle. Dommage, évidemment, on a cette solution, mais on retombe sur le critère de temporalité et sur la contrainte de la temporalité. C'est tout le problème actuel de l'asynchrone et du synchrone. C'est très très bien de faire des choses en synchrone, mais qui dit synchrone dit que tout le monde doit être ensemble, libre à la même heure, et généralement quand on fait une formation à distance, c'est pour justement apprendre selon ses contraintes au moment où on veut être, etc., etc. Donc, ça joue. Technologique, alors je dirais oui, j'avais écrit technologique à l'époque, je dirais maintenant plutôt instrumental, avec les trois dimensions qui sont différentes mais très importantes. La distance technologique très importante, on a tous connu des dispositifs de formation à distance qui galopaient vers la dernière technologie trouvée et qui s'adressaient à un public qui n'avait pas du tout ce matériel et qui s'il l'avait ne savait pas s'en servir, etc. Il y a l'exemple de Téléland que j'adore citer, qui existe depuis 81, 15 000 entreprises, 1 million de stagiaires, qui est repris par Berlitz depuis 2011, en Europe, en Asie, en Amérique. Présentation, apprentissage des langues par téléphone en 80, par Minitel en 85, par vidéodisque laser en 86, maintenant par cyber-teachers, qui sont des supports de formation en ligne, et maintenant des cyber-teachers live, classe virtuelle, qui associe auto-apprentissage et professeurs par visio-chat, etc. Le blended learning, enseignement hybride, bien sûr, depuis 1999, et ils ont eu le prix d'innovation en 2011. Moi, je veux voir quel est ce prix d'innovation. J'imagine qu'il y a des technologies. Si c'est le prix d'innovation technologique, ça va. Je trouve que c'est formidable comme présentation d'un dispositif de formation à distance. Ils ont parcouru toute l'échelle des évolutions technologiques. Bon, autre remarque aussi, je ne citerai pas d'un responsable d'un département d'une formation en entreprise qui dit on n'est jamais amené à déconseiller l'utilisation d'outils multimédia en matière de formation, ne serait-ce que pour une question d'image de marque de l'entreprise vis-à-vis du salarié. Cela dit, il arrive que les moyens techniques ne remplissent pas leur mission pédagogique, etc. Donc là, sur la dimension technologique, je pense que je n'ai pas besoin d'insister davantage, mais c'est vrai qu'il faut se méfier de cette fuite en avant technologique pour des tas de raisons, et en particulier pour éviter qu'il y ait, en tout cas, être conscient de la distance. Maintenant, il y a une distance qui joue dans l'autre sens, je vais en parler aussi. Socio-économique et culturelle, cette différence fondamentale, ça je vais faire un peu d'histoire quand même, c'est le thème de la seconde chance, qui a été formulé publicitairement par le CNEC, avant le CNED, dans les années 60, avec sa célèbre formule, à 17 ans menuisier, 17 ans plus tard, agrégé. À supposer que c'est mieux d'être agrégé que menuisier, à l'heure actuelle, c'est pas sûr. Je passe, mais toutes les universités ouvertes, etc., tout ça, c'est lié à la base de cette idée qu'on donne une nouvelle chance à ceux qui ne peuvent pas suivre les cursus classiques. Et ça, c'est vrai. Que ça a été, et j'en donnerai des exemples extrêmement importants, maintenant avec la formation tout au long de la vie et le droit de tous à l'éducation, on revient très très souvent sur ce thème de la démocratisation au sens large du terme, mais j'ajoute tout de suite, attention au public peu formé, c'est pas Viviane Wittmann que je vais apprendre ça, elle a travaillé très tôt sur ces problèmes-là et j'ai listé quelques leçons du passé, je rappellerai brièvement les émissions de télévision Sesame Street dans les années 70 qui étaient faites pour permettre aux pauvres enfants américains qui ne pouvaient pas aller à l'école de profiter de la télévision pour apprendre à lire et à écrire et qui a servi essentiellement à ceux qui avaient un environnement culturel déjà un peu costaud, ou bien l'Open University, projet présenté en 65 dans le programme électoral travailliste destiné à des exclus du système et qui commençait à surtout servir à des enseignants qui se formaient et se recyclaient, c'est déjà bien. Actuellement, les fameux MOOCs, dont Jacques Wallet a parlé aussi, les massives, vous savez, les massive open online course, oui, c'est bien, MIT, nous, les universités françaises, les meilleures, on se précipitait pour donner aussi ce genre de cours, tout ça, on met ça en ligne, c'est accessible, et oui, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas une nouvelle source d'inégalité et d'élitisme, dans la mesure où accéder à quantité d'informations, et même à un cours très intéressant, sans support d'aide, sans soutien, c'est pas sûr que ce soit si bien. Moi, j'ajoute aussi dans ces cas-là, on peut peut-être trouver autre chose de plus européen que ce que font les Américains, mais là, on est toujours un peu à la traîne. Bon, mais je pense qu'on trouvera. Et j'ajouterai aussi, alors, parce que j'ai lu un livre récemment que je vous recommande, j'ai noté la nécessaire formation pour tirer parti à l'heure actuelle des informations sur Internet. Car en fait, si on commence à travailler, et il y a un certain nombre de recherches maintenant qui le font, dans le détail, sur ce qu'on demande à un apprenant quand on lui dit qu'il a tout sur Internet, hein, ou même quand il est... Eh bien, en fait, c'est très difficile. Ce que demande la maîtrise de tous les services qui sont mis à disposition dans une formation via Internet et les dérivés, c'est extrêmement complexe. Et je vous recommande le livre d'Alexandre Serre. C'est pas Michel Serres, c'est Alexandre, mais son nom propre s'écrit de la même façon. Ça s'appelle « Dans le labyrinthe, évaluer l'information sur Internet ». C'est édité chez CEF, je ne connais pas cet éditeur, 2012, c'est tout récent. C'est excellent pour quelqu'un qui ne se considère pas spécialiste. Oui, là je ne l'ai pas noté, je l'ai noté dans un récapitulatif à la fin, mais je le répète, c'est Dans le labyrinthe, évaluer la formation sur Internet, où il montre avec des exemples extrêmement précis toutes les compétences qui sont nécessaires pour tirer parti de tel exemple, de tel exemple, de tel exemple, de tel exemple. Et je crois qu'on a besoin vraiment de travaux de ce genre, parce que quand on dit qu'il faut une éducation à l'information, ce qu'on dit souvent, il faut une éducation aux médias, il faut une éducation à l'information, bien, éducation aux médias, on a travaillé depuis des années sur les médias et leurs spécificités, éducation à l'information, on a beaucoup à faire dans ce domaine, et il y a des spécialistes en sciences de l'information et de, l'information et de la communication qui travaillent avec les documentalistes, bien sûr, sur ce que peut vouloir dire s'informer sur Internet, au sens, bien sûr, pas chercher le restaurant du coin, mais apprendre. Et même le restaurant du coin, c'est pas sûr que ça vous aide à le trouver tout à fait. Voilà. Je vais vite. Pédagogie, bien sûr, la distance, ben c'est la principale, si je puis dire, parce qu'elle récupère toutes les autres. Parce que c'est elle qui va faire la différence entre on a tenu compte de l'espace, on a tenu compte du temps, on a tenu compte de l'instrument technologique, on a tenu compte du public et de son niveau, etc., etc. Alors ça a été raffiné, moi j'avais parlé de pédagogie, ça a été raffiné par un certain nombre d'auteurs qui ont ajouté cognitif, pragmatique, ça c'est Didier Pakenin, je pense, épistémologie, dialogique, ça c'est Annie Gézégou, merci beaucoup, Annie Gézégou, je vous donnerai ça à la fin. Peu importe, c'est important, mais moi je mettais tout ça sous pédagogie, bien sûr, c'est-à-dire comment on s'y prend pour prendre en compte ces différentes distances et faire que la distance finale n'éloigne pas trop celui qui veut apprendre et celui qui prétend ou veut ou souhaite enseigner. Voilà, j'en arrive à ma troisième partie, que j'ai dit qui était la plus importante. Et là, j'ai essayé. Oui, c'était pas facile comme exercice, hein, finalement, Liliane. Je donne toujours des exercices qui ne sont pas si faciles que ça. On se dit, ouais, le camp de pédagogie et l'information à distance, on connaît. Ouais, c'est pas si facile. C'était pas si facile, pourquoi? Parce que d'une part, je ne voulais pas reprendre les évolutions chronologiques pour les deux raisons que Viviane a données. D'une part, ça a été fait par Jacques, et d'autre part, on sait bien que c'est déterminant et pas déterministe. Donc, je ne voulais pas, et en même temps, je voulais quand même marquer des mouvements dans cette histoire. Donc, j'ai préféré le mot, je ne parle pas de périodisation. Je refuse la notion de périodisation parce que de toute façon, les modèles et les formes pédagogiques comme les supports technologiques ne s'excluent pas. Ils continuent à coexister, simplement, généralement, et je vais en donner des exemples, on ajoute un petit quelque chose à un modèle ancien qui est un peu modifié, mais vraiment, que ce soit les formes pédagogiques ou que ce soit les supports technologiques, ils ne s'excluent pas. Toute l'histoire des technologies et des pédagogies le montre. Donc, pas de périodisation. Et pas de retour sur la chronologie, mais seulement, j'ai pensé à des mouvements qui se tendent. Et j'ai essayé à la fois d'articuler des thématiques qui renvoient à des pédagogies et qui renvoient à des supports technologiques et qui renvoient à des efforts à faire ou à des mobilisations professionnelles sur tel ou tel secteur. Je pense notamment au design. Mais en même temps, de montrer comment cette distance, qui était dès le départ considérée comme une absence, je vais revenir là-dessus, s'est modifiée au fur et à mesure, en tout cas s'est enrichie, moi je dirais sous cette forme, de différentes dimensions pour arriver à un point d'interrogation sur la fin de la distance, et je maintiens le point d'interrogation, car personnellement, vous verrez, je ne pense pas que la distance ait disparu. Bon, c'était pour vous donner là une petite idée. Je vais reprendre, bien évidemment, chacun des points, mais j'ai voulu moi-même me représenter par des termes relatifs à la distance. Oui, je tiens à la distinction, grâce à des définitions qui ont été données, d'ailleurs, entre présence à distance et téléprésence, mais j'en parlerai tout à l'heure. Scoop. Vous pouvez acheter sur Price Minister un cours pratique d'électricité de 7 euros, de RTS promotion, je ne sais pas si c'est ça. Viviane, j'espère que tu as quelques bénéfices de cette vente. Je suis tombée tout à fait par hasard sur cette information parce que je revoyais toutes les successions de médias qui se sont impliqués pour la formation des adultes et je suis tombée là-dessus. Voilà, c'est le coût pratique d'électricité pour 7 euros.
Oui, faut regarder. Non, je suis persuadé. C'est certainement quelqu'un qui l'avait et qui a mis, puisqu'on peut tout mettre sur... Price Minister, oui. Le dernier, oui, mais je vais revenir sur chacun des points. C'était simplement une présentation globale. Alors, premier point de cette troisième partie, la distance comme absence. Bon, là, vous reconnaîtrez, bien sûr... j'avais des remarques d'abord, excusez-moi, deux remarques. Oui, une qui m'a souvent frappée quand même. Dans l'enseignement, on a souvent été prisonnier de cette idée que la présence, c'est essentiellement la présence physique, et que donc, dès qu'il n'y a plus de présence physique, il n'y a plus de communication authentique. Ça, c'est quelque chose à quoi j'ai été très souvent sensible, alors que quand on commence à reconnaître que la présence physique, c'est une des modalités de la présence, et qu'il y a tout un éventail qui va justement de la présence physique à la coprésence, on est déjà rassuré et on se dit que la formation à distance, ce n'est pas dramatique. Première remarque. Deuxième remarque que je tiens à j'emprunte à Jean-Louis Weisberg dans son ouvrage bien connu Présence à distance, déplacement virtuel et réseau numérique, qui date de 1999, c'est l'Armatan, où il soulignait que les technologies d'information et de communication se sont de plus en plus incarnées. Et il cite le rôle de la main dans l'écriture, puis de la voix avec le téléphone, qui est une incarnation supplémentaire, puis l'image en noir et blanc, puis l'image couleur, puis le geste avec l'interactivité, je vais reparler, et avec les retours d'effort. Puis ces mêmes dispositifs, on n'en a pas toujours besoin en formation, on ne sait jamais, les odeurs, ça permet d'ajouter les odeurs, et puis maintenant les fameuses salles immersives dont je parlerai un petit peu pour terminer si j'ai le temps. Autrement dit, c'est ça qui me paraissait intéressant, de mettre en évidence cette évolution des technologies dans un sens de plus en plus incarné, comme il le dit, et aussi de pouvoir parler de ce que j'appellerais un coefficient de présence. C'est vrai que certaines technologies permettent plus facilement que d'autres de, je vais y revenir, véhiculer les signes de la présence dans l'absence. Mais ces deux remarques, c'est vrai, je crois qu'on a été beaucoup trop tributaire en France, j'ai vu la grande différence avec le Québec notamment, où cette histoire, cette idée qu'on n'est pas présent, d'autant plus qu'on sait bien que ce n'est pas parce qu'on est présent dans un amphithéâtre ou dans une classe, comme je l'ai souvent dit et écrit, qu'on est dans un rapport ineffable de face à face et de communication pédagogique. Bon. Donc, voilà, je crois que ça, c'est important. Alors, comment véhiculer les signes de la présence dans l'absence? Ben là, bien sûr, j'avais pris des termes que je me suis emprunté à moi-même, apprivoiser la distance et supprimer l'absence. D'ailleurs, supprimer l'absence, je l'avais emprunté à un commentateur d'Edison qui, en 89, parlait du téléphote d'Edison, et c'est lui qui avait dit ça permettra de supprimer l'absence, et j'avais trouvé cette expression magnifique au moment où on se dépatouillait un peu sur cette notion de distance. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, et maintenant voilà, je vous donne la référence de cet ouvrage, je crois que c'est pas le titre de mon article, mais peu importe, ça a le même sens. Voilà, comment véhiculer les signes de la présence à l'absence, puisqu'en un premier temps la distance est perçue comme une absence, il faut faire quelque chose pour supprimer cette absence. Alors, je fais un petit peu d'histoire quand même. Médiatisation des contenus. Les cours filmés, bien oui, bien sûr. Moi, j'aime citer toujours les cours filmés du CNAM, qui, dès les années 60, pendant des décennies, ont formé dans des centres disséminés dans toute la France des ingénieurs qui bossaient toute la journée et qui, le soir, se coltinaient, entre guillemets, excusez-moi, les cours filmés, qui n'étaient pas toujours séduisants, qui n'étaient pas, etc., mais parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer, qu'ils travaillaient, qu'ils étaient loin de Paris, etc. C'est d'ailleurs toujours utilisé sous des formes vidéoscopées, e-diffusées, etc. J'ai pris 2-3 exemples, mais il y en a plein. Dans beaucoup de dispositifs de formation à distance maintenant très technologisés, vous avez la plupart du temps l'équivalent des cours filmés, c'est-à-dire un conférencier, un débat, un cours, voire un cours qui est filmé et donc mis à disposition des personnes qui ne peuvent pas être présents. C'est vrai que la plupart du temps maintenant, c'est associé à quelques dispositifs interactifs. J'y reviendrai, mais ça reste quand même fondamental. J'ai pris, parce que ça me permettait de citer, là encore, l'exemple du Brésil, hein, l'université ouverte brésilienne, et puis ITEC, qui est une formation spécialisée pour la formation technique, où vous avez des cours filmés, diffusion synchrone, via un satellite, ça va rappeler des souvenirs à certaines personnes présentes, pour 30 000 étudiants, disséminés dans 400 pôles de réception. Voilà, et puis on pose des questions par téléphone. Voilà, et puis voilà. Si, c'est Distance et Savoir, numéro 9, volume 9 de 2011, qui est consacré au Brésil.
c'est très intéressant toujours d'aller voir ce qui se passe dans d'autres continents. Et je vous recommande, c'est pour ça que j'avais pris cet exemple, mais je n'ai pas noté la référence, excusez-moi, c'est Distance et Savoir, volume 9, numéro 2, 2011, où vous avez des témoignages et des recherches extrêmement intéressantes sur le développement de la formation à distance au Brésil, dans ces pays où les distances géographiques, évidemment, sont énormes, et du coup temporelles aussi, la formation à distance se développe énormément. Alors, pour la médiatisation des contenus, oui, j'ai mis, pour aller vite, traitement didactique, scénarisation pédagogique, traitement didactique, ben oui, parce que j'ai quand même passé du temps, il y a très longtemps, à travailler là-dessus. Hein, c'est un cours filmé, c'est une chose, mais on peut faire aussi autre chose qu'un cours filmé, c'est-à-dire on peut traiter, d'un point de vue pédagogique, les images et les sons qu'on utilise en fonction d'un certain modèle pédagogique, en faisant l'hypothèse, voir si ça se vérifie, si ça a une influence sur le processus d'apprentissage. Alors, ce livre datait de 1977, mais comme il vient d'être réédité en 2012 avec augmenté, pas au sens de la réalité augmentée tout à fait, mais augmenté tout de même. Pardon. Le prix augmenté. Non, non, le prix augmenté, pardon. Du tout. Hein, j'ai même pas regardé, toi. Mais c'est vrai que augmenté, j'ai réfléchi après, c'est un peu ça quand même. C'est quand même augmenté parce qu'il y a des textes en plus. Voilà. Donc je vous le signale parce que finalement, il garde une certaine pertinence, j'imagine, puisqu'il a été réédité et je tiens à votre disposition des flyers pour ceux que ça intéresserait. Je ne vais pas développer parce que j'ai travaillé. Mais ça reste valable, c'est-à-dire que je regarde toujours beaucoup et participe quelquefois à des festivals, des films ou des émissions ou des vidéos dites pédagogiques, universitaires et autres, et on retrouve des images et des sons qui ne sont pas utilisés d'une façon maîtrisée. Ce que j'appelle d'une façon maîtrisée, c'est-à-dire on se demande quelquefois, mais pourquoi il y a cette image à tel moment et pourquoi il y a ce son à tel moment. Donc je ne développe pas, je renvoie à ces travaux de 1970 et je renvoie aussi à ce qu'on a appelé un peu plus tard la scénarisation pédagogique, j'y reviendrai aussi peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire au fond, en dehors du cours filmé, qui a déjà ses règles, je rappellerai que nous avons, alors j'ai cherché la date, le vidéoscope de Nancy, Viviane va peut-être s'en souvenir, avait réalisé un cours sur le cours filmé. Un cours sur le cours filmé. On nous avait donné à voir, on nous apprenait que même un cours filmé peut être plus ou moins bien filmé. D'abord, la personne qui parle peut être plus ou moins porteuse de ce qu'elle dit, et ensuite, l'image, la façon dont elle est filmée, le cadrage, la lumière, la prise de vue, le décor, tout ça, ce sont des éléments qui sont tout de même importants et qui peuvent rendre le visionnement plus agréable que d'autres. Voilà. Donc, même antérieure, à mon avis. À mon avis, antérieure. Oui, voilà, je pense que c'était ça. Et on avait suivi ce cours, il était assez long. Hein, c'était pas si... Voilà, j'ai cherché dans mes... Comme j'ai confié mes archives, maintenant je ne les ai plus parce que je suis sûre que j'avais gardé la trace de ces documents.
Comment s'appelle ce site où il y a tous les archives de... Oui, c'est ça.
Sur le Canal U, tu pensais ? Sur Canal U, oui, c'est une bonne idée. Sur le Canal U, tu as raison. Sur Canal U, on doit pouvoir le trouver, tout à fait. Mais c'était en même temps, pour moi, je vais vous dire pourquoi c'est révélateur. Parce que si j'ai le temps, je vous lirai le descriptif de ces fameux classiques Merci, parce que je n'ai pas encore participé, donc je n'ai fait que lire les informations dans le journal. Et à propos des classes immersives, on dit qu'il faut apprendre aux profs à se tenir, à ne pas tourner le dos aux étudiants, à marcher, à se déplacer dans la salle, etc. Exactement ce qu'on nous avait montré dans ce cours pour filmer. C'est pour ça que j'ai retenu cet exemple, parce que c'est une autre façon de se comporter.
Dans les années 60,
qui faisait
de l'autoscopie.
L'autoscopie, tout à fait, mais on a beaucoup appris. Ça n'a l'air de rien, mais on a beaucoup appris. Il suffit de se regarder une fois. Enfin, c'est pas vrai, de toute façon. Moi, je me regarde plusieurs fois. Et... Du calme, pas de gestes, etc. Mais bon. Mais enfin, quand même, quand on se regarde, ça fait de l'effet, si je puis dire. Bon, je passe en disant donc que la problématique que j'évoquais dans l'image et pédagogie est toujours valable. J'ai mis quel que soit le support sémiotechnique, et moi j'aime bien cette expression, chacun utilise des expressions qu'il veut. Moi j'aime bien sémiotechnique parce que technique ça renvoie à l'objet technique, et sémio ça renvoie au système de représentation, à l'esthétique comme on dit quelquefois. Et quel que soit le support, vous avez toujours ces deux dimensions, la dimension proprement technique et la dimension esthétique au sens de modalité de représentation. Voilà. Donc, la règle, c'est toujours ne pas reprendre le modèle canonique de la relation maître-élève. Pour les médiatisations des... Il faut inventer, comme avait dit Sardi en 66. Médiatisation des interactions audio, vidéo, interactive. Alors là, je vais quand même vous lire. Moi, c'est ce que j'appelle la mise en scène de la parole ou la mise en scène de l'interaction. Je prendrai toujours ces deux. Je vais vous lire l'événement du 13 janvier 1991. J'ai lu ça dans Les Échos, numéro 38, sous le titre Les chemins de la réussite. Le CNED, première émission de l'année diffusée par le CNED depuis son studio de télévision sur le site du Futuroscope de Poitiers. J'étais, je peux vous dire. Sur le plateau, entouré de jeunes, François Racheline, professeur à Sciences Po. Dialogue avec un jeune créateur d'entreprise. Celui-ci a concrétisé une idée astucieuse, un procédé de lavage à sec pour les voitures stationnées sur les parkings, par exemple pendant les heures de bureau. Sa PME rencontre un grand succès dans la région, notamment auprès des visiteurs du parc de technologique de Poitiers. Ça, je n'ai pas vu, mais c'est possible. L'émission est diffusée en direct par satellite, grâce aux installations de téléport, vers les 600 sites des correspondants du CNED, équipés d'une antenne parabolique, établissement scolaire, université, entreprise, centre de formation. Elle est interactive, les auditeurs interviennent en direct à distance, posent des questions par téléphone, Minitel, fax. Attention, hein. Téléphone, Minitel, fax, on n'est pas encore aux nouvelles technologies. Des questions recueillies et centralisées par le service de téléaccueil du centre, dont les 90 opérateurs téléphoniques répondent et en même temps qui donnent des informations et orientent les personnes qui souhaitent suivre des cours. Jamais oublié pourquoi on existe. L'émission est un exemple de télévision interactive, une activité du département audiovisuel du CNED. Je l'ai sélectionné parce que c'est vrai que ça a marqué une date, parce qu'avant, toutes ces technologies avaient effectivement cette limite qu'elles n'étaient pas interactives. Et je reviendrai aussi sur ce sens d'ailleurs d'interactivité, qui n'est pas celui qu'on utilise maintenant, mais ça a été un moment très important puisque ça permettait encore une fois tout de même à des gens qui ne faisaient pas qu'assister, mais qui pouvaient poser des questions, et ça permettait d'ailleurs de connaître le public en question, et de lui répondre, bien sûr, mais aussi de le connaître mieux.
Michel Blachère, je dirais qu'au début des années 70, il a initié un magazine à TS Promotion, où les téléspectateurs pouvaient téléphoner.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais RTS Promotion a inauguré dans beaucoup de choses qui ont été ensuite beaucoup plus faciles à réaliser avec les technologies. C'est en ça qu'elles sont déterminantes. Après, ça a été beaucoup plus facile. Tout à fait. Alors, vous avez initié beaucoup de choses. Alors, j'ai aussi eu ce souci de mettre à chaque fois, ou le plus souvent possible, d'indiquer une recherche. Parce que c'est une des choses que je dirais en conclusion. On manque beaucoup de recherches dans ces domaines. Et là, je voulais rappeler les recherches empiriques, mais je ne vais pas le détailler parce que je ne vais pas avoir le temps, qui avaient été menées à la demande de France Télécom pour les usages possibles des dispositifs de téléconférence. Et je vous donne cette référence qui date de 92. J'ai exprès pris des références espacées dans des temps différents. Et ils avaient étudié les différences, c'est très intéressant, les différences dans les modalités de communication entre les groupes médiatés, les auteurs appelaient ça des groupes médiatés, et des groupes en face à face. Et il montrait des différences extrêmement importantes entre ces deux types de groupes. Autrement dit, participer dans un groupe à distance, ce n'est pas la même chose, ça ne mobilisait pas, il faut être toujours prudent, les mêmes réactions que la modalité en face à face. Stratégie plus identitaire que coopérative, dévalorisation du contenu des messages, focalisation sur la technique, la pression du temps, l'impression de fatigue et de difficulté quand on a le groupe, etc., etc. Je vous y renvoie parce que je ne peux pas entrer dans le détail, mais ça a marqué là aussi parce que on voyait bien les intentions de France Télécom. C'était pour savoir s'ils allaient pouvoir développer leur dispositif, bien sûr, ne jamais être dupe. On sait ça. Hein, on nous pousse toujours à utiliser des techniques. Mais il y a tout de même des gens qui cherchaient à savoir à quoi ça pouvait servir et en quoi c'était différent de ce qu'on faisait avant. Deuxième mouvement, la distance comme principe, facteur, selon les moments, j'ai utilisé l'un ou l'autre terme, d'autonomisation. Là, je vais aller à la fois assez vite, mais il y a quand même des choses qu'il faut dire, parce que ça, c'est tout de même fondamental. Une des provocations de la formation à distance, ça a bien été quand même celle-ci, c'est-à-dire, encore une fois, avec ou sans technologie, si on veut se former à distance, les jeunes qui participent au salle immersive de l'Université européenne de Bretagne le disent eux-mêmes, le plus dur, c'est de se faire son emploi du temps, s'y tenir et avoir une certaine autonomie pour travailler, quels que soient les supports, quelle que soit l'aide, quel que soit... Bon, donc l'autonomie, l'autoformation, je reprends les trois termes
que j'avais pris tout à l'heure, auto-formation, autonomie et formation tutorale, ou la distance comme facteur d'autonomisation, l'absence, bien sûr, l'absence des enseignants, l'absence des pairs, tout ça, ça a conduit à miser sur l'autonomie de l'apprenant. Et à miser, comme on l'a montré souvent, beaucoup plus à en faire un prérequis sans le savoir qu'à la construire. Car ça a été dit et redit, il faut toujours le redire, l'autonomie ne se décrète pas, ça s'apprend progressivement et ça se construit en formation à distance comme ailleurs, mais la plupart du temps, pendant longtemps en tout cas, les dispositifs à distance présupposaient l'autonomie de l'apprenant. Or, c'est quelque chose qu'il ne faut pas présupposer, c'est quelque chose qu'il faut construire, mais c'est vrai que l'auto-formation, comme forme pédagogique de la formation à distance, liée, comme je le disais au début, à l'idée de démocratisation, à l'idée d'émancipation par rapport au modèle de l'école, être beaucoup plus libre, être plus autonome, ne pas avoir besoin d'être toujours encadré pour apprendre, etc., etc., la formule de l'auto-formation, c'est la formule, c'est vrai, de la formation à distance. Auto-formation proclamée, comme je l'ai noté, plus souvent que construite. On a travaillé là-dessus, notamment dans un livre sur l'université et l'éthique, chez Debout, 2008, à propos des campus numériques des années 2000. Dans les campus numériques des années 2000, on devait rappeler qu'il ne suffit pas de dire « soyez autonomes », il y avait même, je ne vous le cache pas, des établissements ou des endroits où on disait « oui, ils sont en auto-formation, il n'y a pas de prof ». Auto-formation égale pas de prof. Ce qui était quand même vraiment. Alors, je passe vite sur autonomie, parce que c'est un long processus entre les années 70 et les années 2000, cette conceptualisation du phénomène de l'autonomie, puisque qui dit auto-formation dit autonomie. Je vous ai noté ici cette lente émergence de ce paradigme de l'auto-formation et je vous ai mis en référence le site, l'URL du groupe de recherche sur l'auto-formation où vous trouverez à la fois l'historique, les évolutions, car il y a une multitude, bien sûr, de conceptions de l'auto-formation. Il y a des noms célèbres et connus comme Philippe Carré qui ont beaucoup travaillé là-dessus, il y en a d'autres. Voilà, je ne pouvais pas tout traiter à la fois, mais c'est important parce que cette, encore une fois, l'autonomie, comme beaucoup d'autres concepts, sont utilisés sans suffisamment de précautions la plupart du temps sur qu'est-ce qu'on met sous autonomie. Parce que ça peut être l'autonomie dans le choix d'un jour, dans le choix d'un contenu, dans le choix d'un dispositif, etc. Mais ce n'est pas la même autonomie. Il y a l'autonomie que j'appellerais comportementale, il y a l'autonomie cognitive. L'autonomie cognitive, qui pour apprendre est quand même la plus importante, comment on se situe par rapport à la formation qu'on vous donne, par rapport au cours auquel vous venez de voir ou de lire, en quoi ça se réfère à des choses que vous connaissiez, quel rapport vous faites entre ce que vous connaissiez et ce que vous ne connaissiez pas, etc. etc. Donc l'autonomie cognitive, c'est la plus importante pour la formation, et c'est aussi quelque chose qui se construit, c'est normalement le rôle de l'école. L'autonomie identitaire, là aussi, il y a des personnes présentes ici qui ont beaucoup travaillé là-dessus, notamment quand on s'adressait à des publics d'un niveau d'éducation et de culture pas très élevé, etc. Tout ça, ce sont des autonomies qui sont différentes et j'insiste pour dire que l'auto-formation, c'est un modèle sur lequel massivement repose la formation à distance, quel que soit l'environnement technologique, mais elle présuppose que l'on forme ou que l'on déclare nécessaire à l'avance, il y a dans la salle quelqu'un qui s'est complètement formé à distance, sans jamais avoir vu son professeur pendant 3 ans, ben on peut être sûr que c'est quelqu'un qui est autonome. Et il l'a prouvé par ensuite. Donc, la meilleure façon de devenir autonome, c'est de travailler d'une façon justement autonome progressivement. Alors, j'ai souligné, c'est vrai, c'est un problème récurrent avec ce bémol qui a été exprimé lors des travaux qu'on a fait sur les campus numériques. C'est vrai qu'il y a une espèce de délégation aux formés de la responsabilité qui normalement incombe aux formateurs. Quand on dit et quand on pense auto-formation, on délègue à celui qui va apprendre une responsabilité que normalement on devait assurer et qu'on essaye d'assurer, on va y revenir, à travers le design, à travers le dispositif qu'on met en place, etc. N'empêche qu'il y a cette délégation qui peut, dans certains cas, être extrêmement positive et permettre la construction d'un apprenant autonome, mais qui peut aussi conduire quelquefois à une dévalorisation de la formation. Et quand on a travaillé dans beaucoup de dispositifs ou quand on en a étudié beaucoup, on sait que c'est un des dangers de l'auto-formation, c'est-à-dire si elle n'est pas contrôlée, maîtrisée, du début jusqu'à la fin, si elle n'est pas suivie, ça peut effectivement être, comme certains l'ont dit d'ailleurs, un enseignement au rabais. Hein? Et cette délégation, encore une fois, à celui qui apprend, c'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre. Et donc, il faut être capable de se mettre à sa place, déjà, ce qui est une posture extrêmement importante, qui normalement, d'ailleurs, correspond à la posture d'un enseignant. Hein. Moi, je le dis toujours, quand même, beaucoup de choses qu'on dit à propos de la formation à distance, c'est quand même quelque chose de grand. La capacité de se mettre, mais c'est différent, parce qu'il faut se mettre à la place de celui qui va apprendre et à l'avance, puisque ce qu'on va lui livrer, on ne sera plus là quand on va le lui livrer. Donc, il faut prévoir, se mettre à sa place, à l'avance, en conclure comment j'ai intérêt à organiser ce que j'ai à lui dire, pour que, etc. Donc, il faut connaître le public, etc. etc. Donc, j'en arrive, vous vous en doutez, à ce partenaire, et là aussi, c'est une délégation, plus ou moins bien maîtrisée, justement. Ce partenaire, souvent sans statut ni fonction stable, le tuteur, double, ce qui double très vite cette forme d'auto-formation, c'est la fonction tutorale. Je le dis très vite, une des variables déterminantes de l'efficacité d'un dispositif, de ce qu'on a appelé la persistance aux études, de ce que personnellement j'avais appelé la pièce maîtresse et le parent pauvre des dispositifs de formation médiatisée. La pièce maîtresse, bien oui, la pièce maîtresse, parce qu'une fois que vous avez tous les supports à votre disposition, c'est bien, on le sait, c'est bien s'ils sont bien faits en plus, c'est très bien, mais vous êtes tout seul et vous avez besoin de soutien de nature extrêmement différente, d'où le rôle essentiel du tuteur.